Bonsoir, bienvenue au Spoutnik. Je m'appelle Karine et je fais partie de l'équipe des permanentes du Spoutnik. Et ce soir, on a le plaisir d'accueillir une soirée spéciale en collaboration avec La Dispersion, super librairie pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Et on a pensé donc un événement ensemble à l'occasion de la parution du livre JJ, Tartine-moi et autres textes qui se trouvent entre toutes les mains déjà. Et donc, pour vous donner un peu l'aperçu de la soirée, on va commencer par une présentation du livre avec une discussion donc, avec Nina Kennel et Rosanna Puyol Boralevi, Pauline El-Boulba et Aminata Laborde, donc artistes qui ont écrit et réalisé le film qu'on verra après. Et donc, votre host ce soir de la discussion, c'est Ramaya. Et je te passe la parole. Merci beaucoup.
Bienvenue. Et je pense qu'on peut y aller, non ? Il faut, je vous donne le deuxième micro, comme ça vous avez plus de marge.
Merci La Dispersion et Spoutnik, c'est trop bien de pouvoir montrer le film et de parler du livre en même temps. En réalité, ce projet Gigi ou JJ, que tu as très bien prononcé, à notre différence de nous. Donc JJ, c'est les initiales de Jill Johnson et ce projet, c'est à la fois avec le même nom, à la fois une pièce de danse principalement, un film et ce livre. On va commencer par parler du livre avant de voir le film. Jill Johnson, c'était une critique de danse, autrice, critique d'art, militante lesbienne, autrice de nombreuses autobiographies qui servent à dire plein d'autres choses que uniquement sa propre vie. Et donc là, le livre sort aux éditions Brook, qui est une petite maison d'édition indépendante dont je suis l'éditrice. Et on publie que de la traduction d'écrits qui sont à la fois très proches et très éloignés de ceux de Jill Johnston. Très proches dans le sens où... proches, il me semble, et c'est intéressant d'en parler ensemble et qu'ils se rencontrent dans le catalogue éditorial. Dans le sens où c'est cette question de l'autobiographie, elle importe beaucoup pour raconter à la fois une certaine intimité, souvent marginalisée, des expériences de lutte, des expériences aussi artistiques, de performance, des espèces de récits qui rentrent dans l'histoire d'une manière particulière grâce à l'autobiographie et grâce à du coup un jeu qui est souvent assez collectif parce que ça peut être aussi des récits d'amis, et c'est quelque chose que fait beaucoup Jill, il me semble, c'est raconter ce qu'elle perçoit, ce qu'elle ressent d'une œuvre, d'une manifestation, d'une conversation, et du coup, de par la conversation, ouvrir un peu son écriture à d'autres qu'on peut entendre à travers la sienne. Et donc, avec Brooke, il y a un autre point commun peut-être avec ce livre et les autres livres de la maison d'édition, qui est la traduction collective. Tous les livres Brooke ne sont pas des traductions collectives, mais certains le sont, enfin la plupart. La traduction collective, qui s'est d'ailleurs passée pas mal ici, à l'usine, d'un livre de Fred Moten et Stéphane Warny qui s'appelle Les Sous-Communs, par exemple. Aussi la traduction collective de textes à lire à voix haute, dont Léa, une des co-traductrices, est ici. Et aussi des traductions collectives de poésie. Et donc, on est quatre éditrices traductrices de ce livre. On a travaillé pendant à peu près 4 ans à la traduction. Et parler de la traduction collective, c'est intéressant parce que pour nous, et je pense que c'est une expérience que pas mal de gens font en travaillant de cette manière-là, ça a été vraiment une façon d'apprendre beaucoup de choses qu'on ne savait pas, d'apprendre à plusieurs, du coup de choisir un peu... En termes d'apprentissage collectif, c'est vraiment une méthode hyper intéressante et hyper joyeuse aussi. Je pense que, nos compétences se sont énormément complétées grâce à la traduction collective. Et en se rapprochant du texte au fur et à mesure, y a forcément une amitié qui se développe entre nous, mais qui sert aussi l'écriture dans le sens où. On s'émancipe d'une espèce de vision un peu canonique de l'autrice. On gagne en confiance en écriture collective. Et je pense que si on a été à même de faire une traduction qui est super, c'est aussi parce qu'on s'est vachement rapproché de entre nous et de Jill Johnston, et du coup, comment est-ce qu'on a pu mettre en œuvre une écriture, enfin écrire une traduction, enfin qui est quand même, enfin ça me semble idiot de dire libre, mais bah vous verrez quand on lira les extraits, parce qu'on va vous lire trois extraits qu'on a choisi un peu pour montrer aussi les différentes facettes de l'œuvre de Jill Johnston, que ce soit plutôt la critique d'art, plutôt le récit intime ou militant. Peut-être si tu veux continuer.
Bonsoir et merci aussi au Spoutnik et à la Dispersion de nous accueillir. En tout cas, c'est un peu émouvant pour nous d'être là, parce qu'on avait présenté en fait la pièce chorégraphique il y a 2 ans déjà au Théâtre de l'Usine, et le film en cours de montage, merci. Donc on avait présenté une version de 50 minutes il y a 2 ans déjà, et entre-temps on a une version un peu plus longue de 71 minutes et un peu différente aussi, donc c'est cool de revenir dans cet espace. Peut-être juste pour contextualiser un tout petit peu, puisque je suis un peu à l'origine de ce projet collectif autour de Jill Johnston, puisque moi, c'est une figure que j'ai croisée dans mon parcours. J'étais au département danse de Paris 8, en banlieue parisienne, à Saint-Denis, et je faisais une thèse, et à de nombreuses reprises, j'ai croisé le nom de Jill Johnston sans trop m'intéresser sur le moment à elle, et aussi en la croisant en tant que critique de danse. Puis c'est un nom que j'ai recroisé plutôt dans des recherches artistiques, où je me suis intéressée à des archives lesbiennes des années 70 allemandes. Et bref, au détour de photographie, j'ai retrouvé son visage et son travail qui s'appelait Lesbian Nation. Et c'est là que j'ai compris que cette critique de danse était aussi une lesbienne très connue dans les années 70. Et donc, à partir de là, il y a eu un peu une enquête qui s'est ouverte pour moi. Donc j'en ai un peu parlé dans ma thèse qui a été publiée et qui est ici. Donc c'est le livre le plus moche de la table. Je tiens à dire, comme c'est enregistré, que je n'ai ni choisi le titre ni la couverture. Donc c'était d'autant plus joyeux avec les éditions Brook de pouvoir faire un truc un peu stylé, qui a de la gueule, parce que voilà, je me trimballe cette croûte et c'est compliqué. Aussi, ce qui était hyper plaisant de fabriquer ce livre à quatre, même si on avait des contraintes graphiques et tout, mais peut-être qu'on reviendra sur l'intérieur du livre, c'est qu'on a pu ajouter des choses que peut-être dans une maison d'édition universitaire, on n'aurait pas pu faire. Et notamment, à la fin, on a fait une petite fiche avec les conditions économiques, matérielles, en fait, du travail, comme on l'a fait dans le film, dans le générique. Spoiler. Voilà. Et donc, voilà. Donc, moi, je me suis intéressée à cette figure-là. Donc, sur la fin de ma thèse, je me suis dit que j'avais envie de continuer le travail, que j'avais envie d'emmener aussi des personnes qui me sont proches dans cette aventure. Et donc j'ai proposé à Aminata de travailler avec moi sur la pièce. Peut-être on le redira plus tard, mais le film est un peu arrivé parce qu'il y a eu le Covid, et pour tout un tas de raisons, on s'est retrouvé à partir aux États-Unis sur un voyage qui avait été reporté, et qu'au bout d'un moment, on était là, mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas, et qu'on a eu envie de faire un film. Et du coup, la traduction collective a commencé en fait en visio sur le premier confinement, où on a commencé de manière un peu spontanée comme ça à traduire un texte, dont on va vous lire un extrait tout à l'heure. Et puis en fait, de fil en aiguille, on a eu envie de s'y coller un peu plus sérieusement. Voilà. Et si vous avez des questions aussi, comme vous pouvez le voir, c'est un peu improvisé, quoi.
Non, on se demandait avec Rosanna si pourquoi tu avais eu envie de... Je sais que tu avais déjà envie de traduire ce livre avant qu'on commence à le traduire ensemble. Et pourquoi tu avais envie de faire une traduction collective?
Il faut savoir que Jill, elle a publié une dizaine d'ouvrages, qu'elle a écrit beaucoup d'autobiographies, et que ça a été vraiment un de ses styles littéraires par excellence. Mais qu'avant d'écrire des autobiographies, elle a beaucoup écrit pour un journal new-yorkais qui s'appelait le Village Voice. Et donc, elle écrivait des articles, en fait, de manière hebdomadaire. Nous, on a fait le choix de traduire plutôt des articles, même si on a traduit un extrait de Lesbian Nation, qui est plutôt un format journal de bord. Mais du coup, on ne s'est pas collé sur un ouvrage autobiographique tout de suite. On est plutôt parti sur des textes des années 60 aux années 90, aussi pour rendre compte des multiples visages de sa vie et de son écriture. Et je pense, en fait, Nina, tu m'as quand même présenté Rosanna. Enfin, tu nous as présenté Rosanna, qui était en train de faire la traduction collective. Et je pense que c'est un truc qui nous a un peu interpellés. Gilles était aussi une personne qui travaillait beaucoup l'agencement de ses textes. Elle le faisait souvent avec des copains, copines. Enfin, il y avait un truc qui nous semblait correspondre aussi avec finalement le sujet, quoi. Et puis ça a été aussi cette expérience du premier confinement et où ça nous a donné envie de continuer. Enfin, on trouvait ça plutôt juste de le faire comme ça, quoi.
Pète au casque, la fête au skull. East Hampton. Un hectare d'amour, de soleil et de son chez les Skull. Conduire sur la Georgica Road, où les riches héritent de la terre d'East Hampton. Une table sésame ouvre-toi à l'entrée de l'allée gravillonnée. Des femmes tout sourire pour l'égalité. Elles disent « Écoute, regarde, regarde la liste, il y a déjà 5 personnes qui se sont annoncées comme venant du Voice. » Barbara Guest fait mine de checker et m'entraîne par la main, sautillant et chantant sur la route de briques jaunes direction les Têtes de Mort. Non, j'exagère, elle était juste charmante et pavée de bonnes intentions. Cette fête, je crois que Tom Wolfe l'a catégorisée « cocotte radicale au profit des femmes en lutte pour l'égalité ». Quelques semaines plus tard, une fois récoltés les fonds nécessaires de ce genre de gala que sponsorisent Bob et Ethel Skull à hauteur de 25 billets l'arnaque pour voir leur propriété. C'est pas vrai, mais c'est la façon dont Bob lui-même, traversant maintenant son gazon verdoyant vers moi dans son pantalon blanc à pinces et sa chemise à rayures pastel ouverte sur sa poitrine velue et sa nouvelle barbe à commandant Whitehead, avec un sourire généreux, avait bien dit que les gens paieraient pour voir le lieu.
Il est content de me voir, et moi aussi. C'est un joli petit bungalow que t'as ici, Bob. Je ne peux pas dater le style et on n'était pas autorisé à entrer. C'est une garden party. Mais c'est un rectangle de plein pied noir et blanc, vitré, du genre moderne, minimal, comme tout le monde en construit. Some are building monuments, others are jotting down notes. Tous mes collègues journalistes, partenaires de crime, dont je n'ai jamais voulu. Charlotte Curtis, Time, Newsday, Télévision Suisse, Syndicat international des services d'information. Une fois, je me suis fondue dans un groupe de 5, dont 4 prenaient des notes. Mon éditrice, là aussi par hasard, a dit « C'est typiquement le genre de fête où personne ne se pointe à part celles qui écrivent dessus. » J'ai essayé d'interviewer Charlotte Curtis, qui était en train d'interviewer 2 hommes, qui l'interviewaient aussi probablement, pendant qu'une femme les interrompait pour m'interviewer à propos de ce qui avait coincé entre Betty Friedan et moi. Ce qui coinçait entre Betty Friedan et moi, c'était un conflit d'intérêts sexuelle. Elle me plaisait sous le menton et j'étais prête à discuter à ce niveau-là. Mais elle a eu l'air super vexée quand je lui ai demandé s'il ne devrait pas y avoir une convergence publique pubienne entre le mouvement de libération des femmes et le front de libération homosexuelle. Elle a fait les gros yeux et avec son cramoisi dragueur aux lèvres, elle a dit en articulant clairement chacun de ses mots que ça n'était pas un problème. Quoi a-t-elle répété ? Et il n'y a aucun lien entre ces mouvements. Mais, et elle s'adoucit un instant, je suis contre toutes les oppressions. Tant mieux, mais tu crois pas que... Et elle m'envoya balader. Excuse-moi, j'ai d'autres choses importantes à faire. Tourna les talons et fit voler sa robe maxi et j'ai lancé derrière elle. Tu veux dire que ça te gêne ?
Au bord de la piscine. La piscine ! Ne t'approche pas de l'eau. La piscine est ici le centre de l'attention. Le parfait rectangle à queue, imperturbé par son balai humain ralenti et périphérique de caméras d'interview de cocktail. En attendant, dans les buissons, une guerrière pieds nus assise au bord de la route qui longe la pelouse. J'ai crié « Pourquoi tu viens pas ?»« Parce que j'ai pas 25 dollars !» J'étais près de lui et je me suis retournée et j'ai scanné ma sœur et mes collègues invités et à la vue du camp des Philistins, je fus saisie de crainte. Et un violent tremblement s'empara de mon cœur. En fait, non. Mais, tintintin, une voix du paradis dit « Voici ma fille bien-aimée dont je suis pas tant ravie. L'heure était venue, quelque chose devait se produire. Un nouveau laissez-passer peuple historique. En un éclair, je me transforme en mangeuse de gens, violette, volante, un œil, une corne. En fait, non. J'ai continué à interviewer et à être interviewée. »
Qui je peux pécho ici ? Betty porte du rouge à lèvres. Ethel est occupée à faire l'hôtesse. Barbara a disparu. Charlotte prend des notes. Mon éditrice est là avec son mec. Du coup, je parle encore avec Skull d'une haie bien taillée. J'admire sa barbe, commandant Whitehead. Juste ce qu'il faut de poivre et sel dans un buisson noir, aussi soigné que la haie. Schweber's électronique a lui aussi ce genre de barbe maintenant. Oh, dis Bob, c'est qui ? Je vise ma cible de l'autre côté de la piscine. Solaire, aviateur bleu pâle. C'est Gloria Steinem. Gloria, génial. Je me grouille à faire le tour de la piscine, parmi les interviews Flash Cocktail. Elle porte un dos nu et elle est tout aussi belle de près. Notre passé et notre avenir sont immédiatement scellés. Midwest, Smith, Inde, New York Magazine. Et je dévoile mon plan piscine qui n'était pas au programme. Retourne en paix à l'océan, ma bien-aimée. Moi aussi, je fais partie de cet océan. Nous ne sommes pas tant séparés. On l'est immédiatement par l'introduction de Betty Friedan au micro, qui donne un discours d'encouragement sur les femmes pour l'égalité. Elle présente Gloria.
Je me suis assise pour organiser l'explosion. Retirer le pantalon, les chaussettes, les chaussures, les gros outils. J'ai dû laisser mes notes derrière moi. Too bad. Je m'avance rapidement jusqu'au milieu du petit bain, presque tombée en glissant sur le rebord mouillé. Le ballon de la dernière chance. Tarzan de la jungle à la cocktail party. J'ai pas fait le signe de croix. J'ai pas hurlé Geronimo. J'ai plongé et j'ai fait mes longueurs. J'espérais que mes collègues journalistes remarqueraient mon crawl australien 10 sur 10. J'ai aussi fait une petite démonstration de brasse coulée. Au second tour, je me suis débarrassée de la chemise de cheminot bleu délavée trouée à la manche. Oui, le outfit était tout calculé. Elle est infernale, elle est magnifique. Elle n'est pas si magnifique, elle n'est pas assez infernale. Peu importe, j'étais seule dans l'aquarium. L'eau délicieuse. Pas de canard en plastique dans la baignoire.
Je sors de l'eau. Bord qui glisse. Jill tombe pour la seconde fois. Skull attend, impatient avec sa grande serviette jaune et ravi, je me dis que c'est mon entraîneur et que j'ai gagné la course. Je contourne la haie vers les arbres. Une lady en robe longue se cache dans les buissons.
Pourquoi t'as fait ça ?
Genre vraiment furieuse. J'essuie le chlore de mes yeux. Ça va pas de soi. Bien, j'avais chaud et j'étais saoule.
Chaude et saoule ?
Purée, où est mon carnet ? Maintenant, les autres carnets accourent vers moi.
Et elles disent que t'avais chaud et que t'étais saoule. Avais-tu vraiment chaud et bu ?
Oui.
Tu manifestais ?
Oui.
Es-tu une femme ?
Oui.
Est-ce que tu faisais partie du complot des Red Stockings pour saboter cette fête ?
Oui.
Tu frimais ?
Oui.
Es-tu une lesbienne radicale ?
Oui.
Est-ce que tu apprécies les Skulls ?
Bien sûr.
Est-ce que c'était l'idée de Monsieur Skull ?
Non. Il n'a ni soutenu ni découragé la démonstration, mais j'ai bien eu l'aval de mon éditrice.
Pourquoi t'as fait ça ?
Eh bien, je crois qu'on doit être sérieuse quant à nos buts, mais pas forcément solennelle. Eh bien, qui a un flingue voyagera. Qui voit une piscine nagera. C'était une nage conceptuelle. Bah tu vois, j'ai cette responsabilité journalistique de rendre ma vie intéressante pour mes lectrices chaque semaine.
Où est Gloria ? Et elle ne me remercie même pas pour ce moment désagréable que je leur ai infligé ? Non, tout se retourne. Tu étais géniale, fantastique, sans sas. Verveil d'Osh, Dubis Sochon. Mais Gloria ne dansera pas, Betty est toujours saoulée, Ethel et Edith et Charlotte ont disparu avec Barbara. Une voix au micro déclare « Mesdames et messieurs, la fête est finie. Cocotte radicale, c'est fini. Un nectar d'amour, de soleil et de son. Est-ce qu'on aura élevé les esprits cet après-midi ? J'aimerais pouvoir laisser mes fringues, empaler sur une lance souvenir, raconter tout, frères et sœurs, dîner à l'hippocampe d'argent et la roue libre. » 13 août 1970.
Merci pour la lecture. Moi, j'avais juste une question par rapport à la traduction. C'est souvent quelque chose que vous faites, les traductions collectives, en tout cas avec Brooke. Et en fait, je me suis toujours demandé, en fait, concrètement, comment on fait ? C'est vraiment parce que j'ai essayé avec une amie et on ne savait pas comment faire. Et autre question, je me demandais aussi par rapport à la traduction. Donc, c'est des textes qui sont écrits il y a quand même plusieurs décennies. Et en fait, maintenant, on a peut-être d'autres manières de parler ou d'écrire, en tout cas en français. Et je me demandais s'il y avait des choses que vous avez eu des difficultés ou ça avait généré des discussions entre vous pour ces questions-là. Quoi.
D'abord, en termes de méthode. Ouais, si, ça sort. OK. En termes de méthode, en fait, on fait vraiment du phrase à phrase. Donc, on découpe pas le texte pour que chacun se prenne une partie. C'est vraiment phrase à phrase. Et à chaque fois, on discute de ce que ça nous évoque. Peut-être, on discute et on est aussi sur le moment présent avec les lectures qu'on a, les références qu'on a. Et il y a un espèce d'aller-retour comme ça qui se fait. Et je pense qu'effectivement, Rosanna et Nina arrivent un peu avec cette expérience-là. Nous, on arrive avec un peu plus d'expertise sur Jill et sur le contexte dans lequel elle évolue. Et du coup, ça rebondit un peu par ricochet. Et après, pour les mots, le jargon, je dirais qu'il y a des moments où il y a un truc de comment on tire, on amène des... sans forcément déformer, mais en réinterprétant, en faisant le choix conscient que la traduction, c'est aussi de la réinterprétation à des endroits. Et du coup, d'apporter aussi du vocabulaire qui nous traverse, nous, dans nos manières de lire, de parler, d'échanger, enfin, je sais pas. Je pense qu'il y a des équivalents qui sont introuvables en français, quoi. Et du coup, il y a des moments où on vient chercher plus la texture, l'affectif dans le mot, et ça nous emmène dans du jargon peut-être un peu argotique, et voilà. Mais peut-être qu'il y a d'autres trucs à...
Peut-être qu'on utilisait aussi beaucoup, j'ai l'impression qu'on se lisait beaucoup aussi à voix haute. Et que du coup, on t'entend des expressions et que c'est vraiment le fait d'être à plusieurs, du coup, ça permet de se lire à voix haute qu'on utilisait vachement ça pour entendre les phrases.
Si vous lisez, vous verrez, Jill utilise quasiment pas de ponctuation. Et du coup, c'est des phrases qui se transforment au fur et à mesure de la phrase. Donc, il y a aussi un travail de déchiffrage et il y a des moments où il faut... prendre se mouiller et prendre des décisions sur OK, on va emmener cette phrase dans tel sens, et c'est quand même plus facile à plusieurs parce que il faut déchiffrer Jill. Les mots changent de sens au fur et à mesure de la phrase, enfin, c'est assez particulier comme écriture, et donc c'est des décisions lourdes de sens à prendre à plusieurs, c'est plus... on se risque. Elle met quasiment pas de majuscules, il y a très peu de ponctuation, donc si tu commences à en mettre, vraiment là tu sens que tu trahis le texte. Donc c'est difficile aussi à... les phrases changent, par exemple en des passages hyper littéraires avec des citations, je sais pas, de la Bible, et puis tout d'un coup des histoires de problèmes de salle de bain, quoi. Et donc faut aussi suivre
ces changements de registre.
Ouais. Allez, j'y vais. Alors, ça s'appelle, enfin, on l'a traduit, Agnès Martine, se rendre à la solitude. Peut-être contextuellement, je ne sais pas si tout le monde voit qui c'est Agnès Martine. C'était une peintre. Ouais, c'est une peintre états-unienne, mais en gros, qui faisait vraiment de la peinture abstraite, ouais, et géométrique. Et qui vivait reculé, enfin voilà, ça va être expliqué, mais voilà, qui avait un mode de vie très reculé et tout. Voilà, donc je reprends. Aller voir Agnès Martine dans le désert ressemblait de plus en plus à un pèlerinage, et pourquoi s'en priver ? Un pèlerinage est un voyage long, épuisant, comme vers un sanctuaire. Un sanctuaire est la tombe d'une sainte ou d'une personne sacrée. Aucun de ces mots ne s'applique aux aventures contemporaines. Au mieux peut-être, ils ont des connotations exotiques et irréelles. Mais Agnès Martine est une femme spirituelle et elle n'est pas facile à trouver. À moins que tu sois à Los Angeles quand elle parle au Pasadena Museum, ce qui tombait à pic le mois dernier alors que je longeais la côte vers le sud. J'étais un poil déçue, j'aurais voulu qu'elle soit aussi difficile à trouver qu'on me l'avait dit. Et j'imagine que le dernier endroit où je m'attendais à la voir pour la première fois depuis qu'elle avait disparu de la civilisation était la civilisation d'un musée. J'étais quand même soulagée, déjà simplement de voir qu'elle était en vie, et puis d'avoir l'occasion de sonder ce qu'elle pensait de moi, avant d'avoir le culot de débarquer dans son désert, avec seulement un télégramme qui lui annonçait mon arrivée. J'étais déçue d'apprendre qu'Agnès Martine sortait tout court. En réalité, elle avait fait 6 apparitions dans des musées l'an passé, et m'a dit qu'elle avait récemment voyagé en Allemagne pour négocier le prix de certains tirages. Il me semblait alors que je rendais visite à quelqu'une de simplement très inaccessible et pas du tout recluse de la civilisation. Néanmoins, elle est fondamentalement recluse et a toujours été ainsi, donc peu importe, pas plus aujourd'hui qu'hier, que tu viennes de loin pour la voir, tant que tu aimes voyager et voir des endroits déserts. J'avais l'habitude de voir Agnès dans son loft de Battery Park et je ne sais pas si elle est si différente de ce qu'elle était alors. Et elle est partie de New York en 1967. Je pense que si quelqu'une est différente, c'est moi. Et bien que je la trouvais tellement étonnante à l'époque, je doute avoir pu entendre ce qu'elle avait à me dire. J'étais juste émerveillée d'être en sa présence. Je savais qu'elle faisait partie des femmes exceptionnelles. C'était un plaisir de découvrir une femme exceptionnelle à New York pendant cette difficile époque des années 60. C'est d'ailleurs toujours un plaisir de découvrir une femme exceptionnelle au cours de n'importe quelle décennie difficile. Une femme exceptionnelle est sans doute une femme plus intéressée par elle-même que par autre chose. Une façon de voir qu'Agnès Martin était exceptionnelle était qu'elle vivait résolument seule et que c'était un choix irrévocable. Et parce qu'elle ne comptait pas sur les autres, et tu savais aussi qu'elle était exceptionnelle, parce que ses peintures l'étaient.
J'avais l'habitude de dire aux gens qu'il y avait cette peintresse qui peignait des géométries mystiques comme si personne n'y avait jamais pensé. Des paysages régis par la ligne horizontale ou était-elle verticale? Quand elle était jeune, elle peignait les montagnes telles qu'elles étaient ou comme nous imaginons les voir, ou en tout cas comme on les voit à la foire en plein air de Washington Square. Agnès m'a dit, dans le désert, qu'elle avait observé qu'il n'y avait pas de vraie verticale, ni de vraie horizontale dans la nature. Et dès lors, elle abandonna les paysages. Dans le désert, il n'y a pas de peinture du tout. Il y avait une fosse rectangulaire d'un bout à l'autre, profonde de 2 mètres et longue de 4 mètres et demi, près de sa petite maison en adobe. Elle disait que c'était les fondations de son atelier. Lorsqu'elle partit en 67, elle abandonna à la fois New York et la peinture et aujourd'hui elle recommence à commencer. Ce pourquoi elle a quitté New York et cessé de peindre n'est pas tout à fait clair. Mais si on te raconte l'histoire, c'est le genre d'histoire que tu saisis sans explication. Quitter New York est devenu tout autant un exode rituel que débarquer à New York est un rite initiatique. Les gens disaient « Oh, Agnès Martin est partie au volant d'un pick-up Dodge » et personne ne sait où elle est allée. Ou alors, t'entendais des vagues rumeurs qui disaient qu'elle avait atterri dans le désert du Nouveau-Mexique. J'ai demandé à Agnès comment elle s'était retrouvée là, pourquoi elle avait choisi Cuba, et elle m'a dit qu'elle avait vu ces montagnes depuis cette route qui menait à Cuba par le nord. Elle avait eu cette vision à New York. Et voilà pourquoi.
Voilà, là c'est un petit extrait du coup. Le texte est long et très très beau et continue. Ah oui, il date de septembre 73.
Moi, je me demandais, qu'est-ce que vous pensez de Jill? Qu'est-ce que vous kiffez chez elle ou qu'est-ce qui vous attire?
Justement, sur cette question d'écriture non conventionnelle et d'usage. Enfin, j'ai l'impression que quand en la traduisant, on a... En tout cas pour ma part, mais il me semble que c'est quelque chose qu'on partage, que c'est quelque chose qui a vachement transformé mon écriture aussi, le fait de traduire et de traduire à plusieurs ses textes à elle. Et ça donne envie de l'imiter, ça donne envie de faire plein de choses qu'elle essaye. Par exemple, je trouve que ça donne vachement envie de raconter, un peu comme elle fait avec Agnès Martin, comment elle arrive à... ça donne envie de vachement déborder du sujet, de se dire, on pense écrire là-dessus, mais qu'est-ce que ça fait si on écrit aussi sur la trajectoire qui nous mène? Enfin, comment est-ce qu'elle se retrouve en écrivant sur Agnès à décrire le voyage avec les autres personnes, à décrire quelqu'un qui va faire des dessins pour leur indiquer comment se rendre chez Agnès et comment la description de ses dessins elle ressemble un peu à une description de dessin de peinture d'Agnès Martin. Enfin, du coup, comment est-ce qu'elle va trouver d'autres manières hyper indirectes de raconter ce qu'elle veut raconter, faire d'anecdotes, de questions de vie commune, des questions d'histoire de l'art et de se dire c'est hyper... Enfin, j'ai l'impression qu'en la lisant et en la traduisant par exemple, mais et aussi en écoutant en regardant le film, moi j'ai appris que c'était important dans l'histoire la colocation par exemple, et de parler de tel truc le matin avec sa coloc, quand Yvonne Rainer raconte qu'elle son coloc au début du film, tu te dis mais c'est une info de ouf pour l'histoire de la danse, mais en fait à d'autres niveaux. Enfin, je sais pas, mais... enfin, en tout cas, je trouve que ça apprend à regarder, à donner... à regarder des anecdotes de manière vachement... Peut-être à historiciser plein de rapports, en fait. Et du coup, avoir... à inscrire dans des dynamiques peut-être plus structurelles des rapports individuels et à le faire de manière souvent à la fois fun et sans masquer la cruauté du contexte.
Ouais, mais je suis assez d'accord avec toi. Moi, je trouve que Jill, tu sens qu'elle a un projet, qui est un projet historique de rendre visible des... Tu sens qu'elle a compris des choses et que c'est comme ça qu'elle décide de les mettre en œuvre. Et d'inscrire des choses dans le temps. Et en fait, c'est à la fois en lisant peut-être ces textes de critique d'art sur comment elle a documenté la danse pour rendre visible la danse, et en même temps comment elle utilise les outils qu'elle a perçus, utilisés par les chorégraphes, pour faire des actions. Et tu vois que, enfin, ce que tu dis, c'est aussi de donner de la place peut-être au trivial et de l'inscrire dans le temps par l'écrit. Et moi, je trouve qu'elle a... Bon, elle a clairement un projet militant, mais elle a aussi un projet historique. Et ça, je trouve que c'est très visible. Et en même temps, quand tu la lis, tu pourrais croire que non. Alors, c'est comme ça qu'elle a décidé de l'écrire. C'est comme ça qu'elle a décidé de le mener à bien. Et ça, je trouve que c'est vachement inspirant.
Moi, j'ai un peu bataillé. Enfin, je n'ai pas bataillé, non. J'ai un peu poussé pour qu'il y ait un texte un peu random qui soit à l'intérieur, qui s'appelle « Le plus majestueux des tigres » et qui est vraiment... qui est quand même un peu à l'image de Jill, mais qui est un peu un espèce d'ovni composite de phrases mis bout à bout où tu n'arrives pas très bien à saisir c'est quoi le chemin, même s'il y a des trucs qui se répètent. Donc finalement, elle retombe un peu sur ses pattes, mais vraiment, il y a un truc du collage hyper fort et hyper déstabilisant parce que du coup, tu as du mal à avoir une ligne quoi, de choses un peu palpables auxquelles tu te rattaches en général dans la littérature ou un truc comme ça. D'avoir un truc, non pas forcément didactique, mais au moins un peu... de déceler c'est quoi la ligne. Et là, il y a vraiment des moments où tu sais pas, quoi. Tu sais pas, et du coup, c'est un peu... Bah, après, il est quand même court, donc c'est aussi pratique de se dire que c'est pas un pavé complètement illisible, quoi. Et donc, moi, j'aimais bien ce truc-là chez Jill. Et puis, je pense que oui, effectivement, ce que vous avez dit sur le rapport à l'anecdote et comment l'anecdote vient et donne de l'épaisseur à aussi plein de trucs qu'elle a pu faire, en fait, où si t'as pas les dessous, par exemple, là, la fête au Skull, y a eu plein de récits qui ont été faits sur ça, par la presse, par d'autres points de vue. Et du coup, si t'as pas son point de vue à elle, qui donne un peu ce côté, un peu, je sais pas comment dire, irrévérencieux, bah, en fait, il te manque... Enfin, si tu te fies que sur la presse et les trucs qu'ils ont raconté, elle le dit à la fin, en plus, ça c'est vraiment tellement actuel, en fait, tout se retourne. La meuf, elle vient se beuler un truc, tout se retourne, on lui dit que c'est super, c'est trop bien, on l'applaudit, quoi. Et du coup, c'est aussi comment tu te fais capter et tout. Et je trouve qu'à cette époque-là, déjà, elle témoigne de ce qui se produit. Et en fait, malheureusement, ou je sais pas, en tout cas, fatalement pour nous, c'est quelque chose qui est toujours à l'œuvre aujourd'hui, quoi. Comment on se fait capter, quoi. Et du coup... pour ça, je trouve que bah voilà, de le raconter dans les années 70, bah, ça te dit oui, bon voilà, on est sans rentrer dans un fatalisme, voilà. Mais bon, on est dans la sauce, quoi. Ouais.
Bah là où moi elle m'a inspirée et la preuve en est, c'est que je pense elle m'a donné envie d'aller peut-être là où on m'attendait pas, c'est-à-dire d'aller faire un film, d'aller sur un objet plus éditorial, de pas rester dans mon champ disciplinaire qui était le champ de la danse. Et je pense que à cet endroit-là où elle échappait un peu aux catégories et où elle refusait finalement d'être mise dans une case par ses pratiques, en fait, qui étaient très prolixes et qui étaient très variées. Je pense que moi, ça m'a plutôt inspirée à cet endroit-là de me dire que c'était aussi un bon move, quoi, de sortir de son champ à des moments. Voilà.
Et du coup, le prochain texte qu'on va vous lire, c'est un texte de je sais plus quand... de 94 et qui s'appelle « Fiction d'un soi qui se fabrique ».
On en profite pour vous dire que dans le livre, il y a des dessins aussi qui ont été faits par Aminata pendant les sessions de traduction. là, il y a un petit dessin qui est en lien avec le texte d'Agnès Martine.
Fiction d'un soi qui se fabrique. J'ai lu quelque part que les femmes se transforment ou choisissent un chemin plutôt qu'un autre pour se réaliser seulement après une prise de conscience. Je ne suis pas sûre que cela soit encore vrai. Mais ce dont je suis sûre, c'est que c'était vrai la plupart du temps avant le début des années 70. Avant cette période, j'ai eu deux prises de conscience et les deux menaient à l'écriture comme vocation. De façon tout à fait gênante, la première a coïncidé avec mariage et maternité, entraînant un conflit d'intérêts et faisant peser le poids d'une responsabilité simplement insupportable à l'époque sans un soutien extraordinaire. C'était en 1957-58. Ma vocation ne me conduisait vers rien de plus romantique que l'écriture critique. C'était néanmoins un appel puissant et je fus dévouée à sa poursuite durant 7 années, exerçant mon métier au Village Voice et à Art News. En fin de compte, cette prise de conscience m'a coûté ma nouvelle petite famille.
Le conflit entre ma réalisation personnelle et ma responsabilité familiale a aussi nourri ma deuxième prise de conscience. À présent, c'était le milieu des années 60 et la prise de conscience était contagieuse, en quelque sorte hautement transmissible et souvent fatale. Elle le fut presque pour moi, mais puisque j'avais survécu, s'est manifestée une autre carrière, celle d'une écrivaine. Cette fois-ci, ma prise de conscience était de nature intérieure. C'est seulement alors que j'ai découvert que les choses se déroulaient en moi, que j'avais toute une vie de pensées, de sentiments et d'attitudes ancrées dans un passé qui agissait de façon autonome, déconnectée de ma vie apparente. Les pensées souterraines qui ont jailli à ce moment-là relevaient principalement de fantasmes concentrés autour de mon père décédé depuis longtemps, que je n'avais jamais rencontré et qui n'avait jamais épousé ma mère ni même vécu avec elle. Ma mère me l'a toujours décrit comme déjà mort jusqu'à sa mort à mes 21 ans. Une récente introspection m'a pour la première fois offert l'idée inédite et étonnante selon laquelle j'avais une histoire. Jusqu'alors, évidemment, je pensais que seul le monde et les autres avaient une histoire. Ou bien je pensais que les histoires étaient des affaires conclues, des évidences, non pas des récits que les gens auraient en réalité fabriqués et ne cessent de fabriquer en mettant toujours en scène le même ensemble de faits au sein de différents récits, ni que j'aurais pu fabriquer moi-même. Des faits m'ont été transmis, personne n'en a tiré une histoire. J'ai ressenti d'une certaine manière que j'avais là une mission et je me suis décidée à écrire sur moi, non plus sur les autres, ni même sur leur travail. J'ai transformé ma critique dans le journal en une rubrique d'anecdotes personnelles. Et en 1969, j'avais déjà signé mon premier contrat d'édition sous le titre provisoire d'autobiographie.
J'ai lu quelque part que la quête des femmes de leur propre histoire a été le sujet d'une grande partie de la littérature durant ces 20 dernières années. Quand j'ai signé pour l'écriture de mon autobiographie, j'étais certaine que j'avais déjà une histoire. Il est alors devenu évident que je ne savais pas comment la raconter et que ma quête allait devenir la recherche d'une méthode. J'ai peu à peu réalisé, à l'occasion de 3 échecs, entre 69 et 80, à remplir 3 différents contrats d'édition, que cette histoire et les façons de la raconter ne sont qu'une seule et même chose. L'histoire, a dit Lacan, n'est pas le passé, ou elle est le passé pour autant qu'il est historicisé dans le présent. Mais nous manque probablement les faits essentiels du passé, ce qui rend difficile, voire impossible, la constitution d'un contexte. Par exemple, en 69, il m'est arrivé un tas de choses, mais il me fallait encore apprendre que j'étais une femme, soit le membre d'une caste désavantagée à l'intérieur d'un système politique.
Ce manque de vision politique signifiait que je ne savais pas comment envisager les circonstances de ma naissance, et encore moins évaluer les conséquences de l'abandon par mon père ou du mensonge de ma mère. Je ne pouvais pas non plus apprécier la gravité du conflit entre famille et carrière dont j'ai fait l'expérience. J'ai grandi dans une famille exclusivement féminine, avec une mère qui travaillait, puis on m'a envoyée dans des écoles de filles. Il est évident qu'une fois entrée dans le monde des hommes par le mariage, le domaine du père, je me suis retrouvée dans un endroit que je ne comprenais pas. Mais pour comprendre l'incompréhension, j'avais d'abord besoin de comprendre que les femmes elles-mêmes n'avaient pas d'histoire, que les minorités et les marginaux, marginales, en général, n'avaient pas d'histoire. la quête d'une histoire et la quête d'une vie. La recherche elle-même est le sujet d'un nouveau genre littéraire que l'on pourrait nommer autobiographie plébéienne. Voici l'évolution culturelle la plus importante. Elle promet des prises de conscience encore plus ravageuses que celles imaginées jusqu'à présent. Surtout lorsque la forme sera canonisée.
Voilà. Et merci beaucoup. C'était trop bien.